Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous et à toutes. Alors, quelques nouvelles d'abord. Le monde va mal et l'écologie est soumise à des reculs notoires, comme c'est souvent le cas en période de crise. Mais ses défenseurs tiennent bon. Et malgré des attaques répétées, la protection de la planète se poursuit, comme l'a démontré la série d'engagements internationaux la semaine dernière à Nice. Notre invité du jour reviendra notamment sur une des questions qui a fait polémique, celle des aires marines protégées. Mais avant cela, sachez que SOS Méditerranée fête ses 10 ans d'engagement citoyen pour sauver des vies en mer. Le 20 juin, par la Journée mondiale des réfugiés, grâce à l'Aquarius, puis à l'Océan Viking, l'association a secouru 42 000 migrants, avec chaque jour une tâche plus ardue. Autre nouvelle importante, cette semaine à Biarritz, on phosphore sur la géothermie, une énergie trop méconnue et pourtant pas du tout polluante. Montpellier y a recours, à Cambacérès. Mais pas que, puisque le futur campus MBS y aura recours aussi. Mais nous reviendrons sur le sujet en septembre. Maintenant, notre invité, Gilbert David, pour parler d'un sujet éminemment polémique en France, mais pas du tout au niveau international, enfin, un peu aussi au niveau international, mais en tout cas, on a réussi à prendre quelques mesures. Alors, celui des AMP. Alors, Gilbert, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous étiez jusqu'à très peu encore directeur de recherche à l'IRD, l'ex-Orstom. Vous avez bourlingué sur presque toutes les mers du monde, docteur en géographie de la mer. Vous êtes resté quelque temps à Nouméa, ce qui va nous permettre d'aborder les engagements de la Polynésie à l'UNOC, qui s'est déroulé du 3 au 13 juin à Nice. Alors, je ne reviens pas sur votre parcours parce qu'il est impossible de citer tout ce que vous avez fait en termes d'écriture, d'ouvrages, de recherches. Et j'invite donc nos auditeurs à retrouver tout cela dans Google. Alors, en tant que spécialiste de la mer, vous avez bien sûr étudié les pêches du monde et très tôt réfléchi aux AMP, les aires marines protégées, puisqu'il y a plus de 10 ans, vous donniez déjà des conférences sur les aires marines protégées. Alors, ma question c'est, qu'est-ce que vous en tirez comme conséquence ? C'est quoi ces aires marines protégées ?
Ben, les aires marines protégées, c'est un des seuls outils que l'on a véritablement pour essayer de préserver la biodiversité marine. Alors, sous le vocable aire marine protégée, on met plein de choses et c'est ça qui fait polémique. Pour certains qui voudraient protéger les habitats de manière très forte, une aire protégée, c'est carrément un sanctuaire hein, où on va laisser les poissons et la biodiversité tranquille, hein, sans aucun usage. Et d'autres vous disent, ben, on ne peut pas faire ça, ce n'est pas possible, parce qu'il faut que ce soit socialement accepté par les pêcheurs, les populations, etc. Donc on a fait aussi des aires protégées qui sont beaucoup plus souples et qu'on pourrait appeler plutôt des aires gérées. Hein, mais ça reste une aire protégée, il faut se rendre compte que c'est un territoire administratif que l'on va mettre en place sur un écosystème avec l'objectif qui c'est de préserver cet écosystème.
Alors effectivement, un des points qu'on a vu débattu énormément, c'est que finalement une aire protégée, une aire marine protégée, n'est pas seulement réservée à la pêche.
Bah, une aire protégée, l'objectif principal d'une aire protégée, le premier objectif, c'est soit de restaurer des habitats lorsqu'ils sont dégradés, ou alors lorsqu'on a une zone absolument exceptionnelle, la préserver de tout usage qui pourrait en diminuer l'intérêt biologique.
Oui, alors en France, elles ont des tas de noms, c'est-à-dire qu'on repère en fait à peu près 11 nominations entre les parcs nationaux, dont vous avez parlé, qui sont très stricts et où on ne peut rien faire, des parcs régionaux où on a un peu d'activité, les zones Natura 2000, tout ça était des aires marines protégées.
Oui, on peut dire ça, mais avec des statuts différents. Par exemple, la réserve naturelle marine accepte l'idée de sanctuaire. Tandis que le parc naturel marin, qui couvre, je dirais, 90 à 95% de la superficie des AMP françaises, lui n'a pas de sanctuaire. Donc c'est une aire gérée où les usages sont réglementés.
Donc vous comprenez tous que, bien sûr, entre ces deux exemples, il y a un monde complètement énorme et que forcément la polémique peut naître entre le protéger absolument, ce qu'on appellera la protection forte et la protection qui est un peu plus souple et qui a été négociée. Alors on a vu donc à Nice que très certainement, le statut des aires marines protégées risque de se modifier dans les années qui viennent, parce qu'on commence à savoir de plus en plus de choses, finalement.
Ça a commencé avec le plan stratégique de la Convention pour la biodiversité, hein, Montréal-Kyoming, où on prévoit que d'ici 2030, c'est-à-dire demain, 30% des océans, de la totalité des océans de la planète, devraient être mis en conservation.
Alors, qu'est-ce que vous pensez d'un chiffre, là? On annonce 30% de la planète. Or, moi, j'étais à Nagoya au moment où on discutait les Aichi, ce qui allait donner bientôt la biodiversité, enfin, l'accord sur la biodiversité. Et on avait Arnaud Jonglage, qui en était le président, qui disait « Oh, finalement, les chiffres sont souvent des choses qui sont avancées par les politiques pour se donner un cadre, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Hein. » Vous qui êtes chercheur, vous en pensez quoi?
Normalement, 30%, ça vient des... Bon, ça a été amené par deux ONG américaines, The Nature Conservancy, TNC, et Pew Charity Trust. Normalement, c'est ce qu'il faut pour qu'on puisse être certain que les écosystèmes perdurent. Sauf que vous parliez de Nagoya. À Nagoya, on a dit 10%. Quand on fait le bilan de Nagoya, on voit que plein de pays ont été loin d'atteindre leurs 10%. On a atteint 10% de manière globale. Pourquoi? Parce qu'on a créé des grandes aires marines protégées, notamment dans le Pacifique. Et c'est ça qui a permis d'atteindre l'objectif de Nagoya. Alors sur Nagoya, on a fait des AMP uniquement sur la zone économique exclusive. Là, si on veut passer à 30%, ça veut dire qu'il faut aller vers des AMP en haute mer. Et ça a été la discussion, je pense, à Nice.
Ça a été une des discussions à Nice, mais pas seulement non plus. Parce que je pense que même dans les AMP dont vous parlez, qui sont de très très grandes AMP, on leur a même reproché d'être des AMP de papier.
Vous savez, vous voulez protéger le thon. La grande question, c'est est-ce que ça vaut le coup de faire une AMP quand on veut protéger le thon?
Parce qu'il se balade.
Vous avez un thon rouge, ça peut faire 200 km par jour. Le thon, c'est un animal absolument extraordinaire. Il a comment dire, un système de vascularisation qui lui permet, quand il est adulte, de plonger en profondeur et de se déplacer. C'est un thon qui reste sur place, meurt parce qu'il est dans un endroit où il n'y a pas assez à manger. Donc son but, c'est d'aller trouver de la nourriture. Et pour trouver de la nourriture, il doit pouvoir se déplacer dans un volume. Donc il peut aller jusqu'à 800 mètres de fond et faire 200 km dans la journée. Donc c'est absolument extraordinaire. Alors vous faites une aire protégée. Mais est-ce que votre thon va rester dans votre aire protégée? Par contre, on peut se poser la question, si on veut protéger le thon, est-ce que ce ne serait pas plus intéressant d'interdire les DCP flottants? Les DCP flottants, qui sont des dispositifs de concentration de poissons, donc des petits morceaux de bois ou de plastique que l'on met sur la mer et qui vont attirer les thons et qui sont extrêmement efficaces. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que ce n'est pas une mesure disons, de travailler sur la pêche directement, ça ne serait pas plus efficace que faire de grandes aires protégées. Par contre, les AMP en haute mer sont intéressantes pour ce qu'on appelle les monts sous-marins. Les monts sous-marins, c'est souvent donc, une remontée, si vous voulez, du fond de la mer qui peut aller jusqu'à 20 mètres, jusqu'à 3000 mètres de fond. Et là, ce sont des endroits qui sont souvent très intéressants au niveau biodiversité et qui sont exploités et de manière totalement libre actuellement. Enfin, jusqu'à l'année dernière, il n'y avait aucune réglementation. Vous pouviez aller chaluter, si vous voulez, ou surexploiter les stocks sans aucun problème.
De façon tout à fait légale.
C'est le Far West. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de règles, allez-y. Hein, c'est la loi du plus fort.
Bien. Alors, donc ça, on l'a vu, il y a donc cette question. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on a vu comment Greenpeace, qui a versé ses blocs de béton sur le Barcarès, hein, en essayant de montrer qu'il y avait des aires marines protégées qui étaient des fausses aires marines protégées qu'on continuait à chaluter. Bon, c'est peut-être pas forcément la bonne mesure pour créer de la discussion, mais c'est important, en tout cas avant l'UNOC, de montrer que c'était une vraie question. Et vous allez nous dire, mais si on met en place ces aires marines protégées en haute mer, comment est-ce qu'on les surveille? Comment est-ce qu'on met en place de la gouvernance? Alors, est-ce que déjà, il y a une réflexion au niveau de la recherche qui s'est posée sur cette question?
C'est un sacré problème, hein, parce que, vous savez, ça ramène à une vision de... les gens ont beaucoup oublié, mais il y avait un vieux monsieur qui s'appelait Jacques-Yves Cousteau, il y a quelque temps, qui avait une vision qui disait « on ne peut pas laisser la gouvernance de la haute mer ou de la mer à des États ». Or, à partir du moment où ce sont les États... parce que les États sont des États terrestres, ce sont des gens de la Terre. Toute la législation sur la mer, tout le droit de la mer, hein, que ce soit le premier droit de la mer qui a instauré les eaux territoriales, c'était le droit en 1961. Après, on a eu la mise en place des zones économiques exclusives en 82-83. Tout ça, c'est une prolongation, si vous voulez, de l'espace terrestre vers la mer. C'est-à-dire que ce sont les terriens qui prennent possession de la mer. Et Cousteau disait, la mer est tellement et si importante qu'il ne faut pas la laisser aux mains des terriens. Donc, mais c'était une bonne idée. Sauf qu'on ne savait pas comment faire.
Mais vous savez que c'est une idée qui a été proposée par des ONG. Varda Group, notamment, dit qu'il faudrait mettre tout l'océan en protection. C'est-à-dire qu'il faut renverser complètement la discussion telle qu'elle est menée aujourd'hui dans les enceintes internationales. Il faut mettre tout l'océan en protection et demander une autorisation quand on veut exploiter ou quand on veut pêcher. Vous en pensez quoi?
Moi, je pense qu'il faudrait en effet considérer que la haute mer est comme une sorte de pays. Hein, c'est quand même une partie hyper importante de la planète. Et donc, par contre, il faut lui donner une personnalité juridique et avoir quelqu'un qui va la défendre. C'est qui le président de la République de l'océan? Mais si on considère ce genre de choses, ça sera peut-être un moyen d'avancer parce que... Sinon, on va retomber dans les bisbilles des pays. C'est compliqué de gérer la planète à 185 pays. Il n'y a pas 185 pays pour gérer l'océan, mais on voit bien que les Nations Unies ont parfois du mal.
Même les terriens, gèrent parce qu'ils s'approvisionnent.
Alors là aussi, il y a aussi une notion qui est intéressante, c'est la relation entre la terre et le littoral et considérer que même des pays terriens peuvent avoir une influence sur la mer par ce qu'ils font sur leurs bassins versants. Tout ce qui se fait sur les bassins versants en termes de pollution va se retrouver dans le réseau hydrographique et le réseau hydrographique il se retrouve dans la mer. Et c'est Madame la mer qui reçoit un petit peu, qui est la mémoire de ce que l'on fait sur la terre.
Alors moi il y a une question qui est peut-être un peu... mauvaise sur le plan scientifique, mais je pensais que les aires marines protégées devaient être aussi les lieux où reproduisaient les poissons, où on avait les booms planctoniques, où on avait repéré finalement la manière dont un poisson pouvaient prendre naissance. Hein. Est-ce que c'est juste ou faux ?
La plupart des aires protégées jusqu'à présent ont été mises en place dans des zones peu profondes, dans des zones côtières. Ce n'est que récemment, depuis 10-15 ans, qu'on s'est mis à faire des grandes aires marines protégées qui englobent l'ensemble d'une ZEE. La première aire protégée de ce type en France, ça a été Mayotte, le parc marin de Mayotte qui couvre l'ensemble de la ZEE. Après, on a, vous en avez parlé, le parc marin de la mer de Corail qui couvre l'ensemble de la zone économique exclusive de la
Alors
Nouvelle-Calédonie.
On dit que c'est un mauvais parc. C'est une mauvaise mise en protection, disent certains.
Écoutez, c'est un parc naturel marin, donc il n'y a pas de sanctuaire. Mais on est dans un monde où il faut d'abord commencer à faire des compromis. Et puis, ma foi, pour qu'une AMP fonctionne, elle doit reposer sur trois choses. D'abord, il faut que l'environnement, la biodiversité soit préservée. Ça, c'est l'objectif essentiel. Et après, il y a deux moyens pour ça. Il faut qu'on ait une sécurisation financière, c'est-à-dire que ça coûte cher de protéger l'environnement. Donc il faut qu'on ait une AMP qui ait des sous. Et après, il faut éviter le braconnage, il faut donc qu'on ait ce qu'on appelle une bonne acceptation sociale de l'AMP. Et un des problèmes majeurs pour l'acceptation sociale des aires protégées, quand on les met en place, c'est les relations avec les pêcheurs. Parce qu'on va demander à un pêcheur... on lui ampute une partie de son espace de pêche. Et on lui dit, on t'enlève une partie de ton espace de pêche, mais dans 10 ou 15 ans, si l'AMP fonctionne bien, on aura beaucoup de poissons dans l'AMP et les poissons de l'AMP vont partir en dehors de l'AMP. Hein, c'est ce qu'on appelle un effet débordement. Et c'est à partir de ce moment-là que toi, pêcheur, tu pourras bénéficier de l'AMP. Sauf que le pêcheur, il va vous dire, mais dis donc, là, j'ai 10 à 15 ans à attendre. Et donc, il faut trouver un petit peu... On est obligé de trouver des compromis avec les pêcheurs.
Ben, il n'empêche que c'est un peu ce qui s'est passé à Palavas. Alors, ce n'est pas vraiment une AMP, mais le maire a lancé cette zone protégée. Et les pêcheurs ont été très réticents. Et au début, et puis maintenant, ils sont contents.
À partir du moment où ça... Je vais prendre une aire protégée dans la Méditerranée, qui est une aire protégée qui a été faite par les pêcheurs. C'est la Côte Bleue.
Oui.
La Côte Bleue,
alors
ça
elle
a été
40
mise en
ans
place...
et elle marche très, très bien.
Elle a été mise en place par des petits pêcheurs, ce qu'on appelle les petits métiers, qui ont mis en place donc un système de... C'était une AMP, mais en plus avec des récifs artificiels, pour embêter un peu les chalutiers, parce qu'on retombait sur un problème de compétition d'usage sur la mer entre les petits métiers et les grands chalutiers. Et donc, ça a été fait. Les pêcheurs ne sont pas... Quand les gens disent les pêcheurs sont l'ennemi du poisson, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Vous avez une association de pêcheurs qui s'appelle en France Pêche et Développement, qui est basée à Lorient, et ces gens-là ont une réflexion. Les pêcheurs réfléchissent à leur avenir. Si un pêcheur...
La Fondation de la mer aussi, j'ai vu.
Oui. Mais disons que si on veut que la pêche perdure, il faut se donner les moyens. Donc les pêcheurs ne sont pas... Par contre, se pose un problème. C'est là où, en Méditerranée, on a une institution qui est très intéressante, c'est la prud'homie. La prud'homie, c'est quoi ? Ce sont des pêcheurs qui gèrent un espace qui est un espace juste à côté d'eux. Ils sont donc... pêcheurs, mais en même temps gestionnaires et en même temps policiers. Et ça, c'est bien. En gros, ils ont une exclusivité sur l'usage de leur territoire. Et ça, c'est un des énormes problèmes qui se posent au niveau général. C'est le libre accès. Vous pouvez avoir une mer poissonneuse et tout d'un coup, vous voyez un bateau qui fait 150 mètres de long, qui vient de l'autre côté de la planète et qui va venir préserver vos ressources et vous ne pouvez pas faire grand-chose. Hein, ou alors, vous avez une ZEE et puis vous avez le gars qui va voir le ministre des Pêches.
On va en reparler un petit peu la semaine prochaine quand on va voir les problèmes de la pêche illégale qui ont aussi été discutés à Nice. Oui. Parce que c'est vrai aussi que sur ces fameux... ces fameux chalutiers de 150 mètres de long qui viennent ratiboiser notamment tous les poissons du Sénégal ou du Kenya, etc. On s'aperçoit qu'il y a des mesures qui peuvent être prises parce qu'ils font de la pêche illégale, c'est-à-dire qu'ils ne débarquent pas le poisson. Ils continuent à le ramener chez eux, ou alors ils en font de la farine, mais finalement, ce n'est pas considéré comme du poisson pêché. Donc, on ne l'a pas dans les quotas, on ne l'a pas dans les... On ne peut pas réglementer la pêche à cause de ça.
Oh oui, je suis d'accord. Hein. C'est un
donc,
moment,
ça marche ensemble, quoi.
Ah ben, ça marche ensemble, et je pense qu'il va falloir... Il y a des endroits de la planète où il va falloir interdire le chalutage. Et je pense qu'il va falloir interdire les gros chalutiers. Il y a un gros souci sur la pêche minotière. Hein. La pêche minotière, ça veut dire la pêcher du poisson pour en faire de la farine. Et donc pour nourrir les animaux, etc., ou faire les prédateurs en aquaculture, c'est quelque chose qui doit être... Bon, si les stocks sont bons, on peut y aller, mais si les stocks ne sont pas bons, il faut faire...
Alors, vous avez beaucoup travaillé sur les aires marines du Pacifique. On a vu là, à Nice, finalement, que la France s'en tire grâce à la Polynésie, puisque la Polynésie lui apporte une superficie absolument incroyable et que donc on peut augmenter nos chiffres avec ça. Alors là, ça nous paraît intéressant parce que c'est culturel chez les Polynésiens et finalement c'est indiqué dans leur tradition finalement de ne pas pêcher n'importe comment. C'est peut-être pour ça qu'ils ont eu plus facile à la mettre en place. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui les connaissez bien ?
Ah, je suis pas sûr. Ah ben, bon, ce qui est certain, c'est que la zone économique exclusive de la Polynésie, c'est grand comme l'Europe.
Oui, c'est ça.
C'est énorme. C'est la plus grande zone économique exclusive du monde de la zone intertropicale. Bon, il y a quelques années, ça a été considéré comme une aire gérée. Donc, on était un peu dans le statut de parc naturel marin. Alors maintenant, justement, les avancées de l'UNOC, ça a été d'avoir des zones de protection fortes hein, qui ont été faites. Alors, il y a eu, j'ai vu 220 000 km², ce qui est absolument énorme sur la société. 680 000 km² sur les gambiers. Et puis, on devrait avoir... Alors, il y a aussi 250 km² pour la pêche artisanale. Et il y a des travaux sur les marquises et les australes. Alors... Les Polynésiens sont de grands navigateurs et sont de grands pêcheurs. Alors après, la protection dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle le raoui. Et c'est ce qu'on, en gros, ça correspond à des tabous.
Ça va même jusqu'à interdire de la baignade dans certains lieux.
Oui, alors le raoui, traditionnellement, c'est pas de la gestion de la pêche. C'est une gestion par l'accès ou l'autorisation d'aller pêcher. Tous les tabous fonctionnent comme ça. Vous allez à la pêche, vous allez sur un platier ou vous y allez pas. Et bien souvent, ce que les gens ne pigent pas bien, c'est que ça n'est pas pour des fonctions alimentaires. On pensait que les gens géraient au jour le jour leur stock par ce type d'aires protégées communautaires. Ce n'est pas le cas. Les gens faisaient des aires protégées communautaires pour, le jour venu, avoir suffisamment de poissons pour le prélever lors de fêtes coutumières, notamment avec d'autres villages.
C'était très religieux, en fait.
Bah, ça a une fonction sociale. Ouais. Ça a une fonction sociale avant d'être alimentaire. Alors, ce n'est pas parce que... Alors, c'est très à la mode maintenant, ça. Hein, c'est ce qu'on appelle en anglais les LMM. Ça veut dire les aires protégées localement. Alors, ça peut marcher, mais attention, il ne faut pas faire
Oui, il ne faut pas faire d'amalgame. Tout le monde ne peut pas faire ça.
Je ne vais pas être politiquement correct, de fétichisme. Parce que ce n'est pas parce que ça a fonctionné durant des siècles que ça fonctionne bien maintenant. Il y a des conditions pour que ça fonctionne. Il faut voir qu'avant, on ne pêchait que dans un cadre vivrier. Quand vous avez une ressource qui est à haute valeur commerciale, comme de la bêche de mer, comme des coquillages nacriers, etc., c'est beaucoup plus difficile d'avoir une gestion locale. Et donc là, il faut avoir un système politique très fort.
Et je pense que c'est ce qui effectivement intéresse aujourd'hui beaucoup plus que la dimension ethnographique, ethnologique, fétichiste, comme vous avez dit, du problème. Ce qui intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment on peut gérer ces temps où on ne pêche pas pour que le poisson se reconstitue sans tuer pour autant la filière pêche. Et je crois que l'intérêt qui est aujourd'hui dans les pays, disons, qui n'ont pas ce type de pratique, c'est qu'ils apprennent à voir comment on peut partager ces temps de pêche sans casser, sans toucher aux filières, parce que c'est un vrai gros problème. On l'a vu par exemple pour la pêche pour les coquilles Saint-Jacques ou pour tous les poissons qui sont revenus parce que justement on a mis en place des calendriers. Il y a un moment où économiquement on a un souci et il faut réussir à résoudre ce souci.
Alors, jusqu'à présent, tous ces systèmes de gestion étaient des systèmes locaux. Ce qui est important, c'est d'arriver à avoir une gestion supralocale. On peut avoir une gestion nationale de systèmes locaux. En disant, le système local du style LMMA, l'avantage, c'est que si la population locale, si les pêcheurs sont partenaires ou animateurs et entrepreneurs de cette affaire, ça évite un des gros soucis, qui est le souci de la... de la surveillance, puisque c'est la population locale qui pêche et qui surveille. Donc on va avoir une aire protégée qui va réussir, qui sera socialement acceptée et financièrement sécurisée. Le problème, c'est qu'il faut qu'on ait ça au niveau national. Donc on peut imaginer des systèmes où, dans un système local, on met une sorte de jachère, on interdit pendant 3-4 ans, et puis après, c'est toute une planification spatiale marine à partir d'aires locales protégées, ou de prud'homie, comme vous voulez, qui se mettent en place. Donc on est sûr d'avoir suffisamment de poissons au niveau national pour structurer les filières, mais à l'échelle locale, il faudra mettre en place des compensations. Parce que si un pêcheur n'a pas le droit de pêcher pendant 2 ans, il faut bien lui apporter de quoi faire.
Alors, on vient d'évoquer donc tous les problèmes qui effectivement se posent et que, encore une fois, il ne s'agit pas d'un simple slogan pour organiser ce type de protection. C'est compliqué, on l'a vu, ça nécessite que de nombreuses personnes se préoccupent de la chose. Il nous reste quand même la surveillance. Alors, moi j'ai vu à Nice se mobiliser beaucoup et entendre beaucoup de solutions passer par le spatial notamment. Alors, vous étiez un peu sceptique par rapport à ça et effectivement, hier à France 2, on a eu un début de reportage sur les côtes sénégalaises où on voyait que finalement, les satellites pouvaient être mis en défaut par les bateaux.
Non, les satellites... Savoir où est un bateau, c'est une bonne chose. Jusqu'à présent, les bateaux sont obligés de se signaler. Quand ils font plus de 12 mètres, ils ont... Mais ce système-là, il est... Si vous voulez l'éteindre, vous pouvez l'éteindre.
Et voilà, c'est ce qu'il nous disait. Il y a des bateaux qui éteignent.
Ouais. Alors, par contre, après, le problème est une fois que vous avez repéré un bateau, qui est un bateau qui, normalement, ne devrait pas se trouver là, comment fait-on pour l'arraisonner ? Et on retombe sur les problèmes. Ce n'est pas que la surveillance, c'est le problème de l'arraisonnement et après le problème de sa mise en justice, etc. Qui va le faire Alors, je prends l'exemple de La Réunion ou à La Réunion. Il y a une station satellite qui s'est mise en place au Kerguelen. Et donc, depuis qu'il y a cette station au Kerguelen, la pêche de la légine a été beaucoup mieux gérée. Et donc, là, la marine nationale peut savoir où se trouve... elle a plus de possibilités d'intervention qu'avant. Parce que un bateau de la marine nationale, enfin de n'importe quelle marine, a très peu de chances de trouver des braconniers, justement, s'il n'y a pas de satellite. Donc le satellite permet quand même des...
Bon, alors on va s'arrêter là, même si on peut encore discuter très longuement du sujet. On s'aperçoit qu'effectivement, c'est quelque chose qu'il faudra un peu de temps pour le résoudre. Mais en tout cas, il semblerait qu'aujourd'hui, le problème soit bien identifié. Qu'on refuse justement ce qu'on a donné comme étant les fameuses AMP papier, c'est-à-dire celle qui n'en était pas, où on commence à discuter effectivement du chalutage dans celles qui seraient en zone, enfin, ou des AMP très protégées. Donc, en tout cas, on retrouve presque une discussion cas par cas qu'on va suivre l'année prochaine avec le Congrès mondial de l'UICN et avec, sans doute, la Convention sur la biodiversité. Merci, Gilbert.
Merci.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur Divergence FM.